Les Parisiens en raffolent les jardins publics. Avec ses 44 hectares, il est le plus grand espace vert de Paris, le cimetière du Père-Lachaise.
Oui, c'est le plus grand espace vert de Paris, c'est celui où il y a le plus d'arbres déjà. On en dénombre entre 4500 et 5000.
Même s'y dorment ceux qui ont rendu leur dernier souffle, on peut dire que c'est l'un des poumons de la capitale.
C'est un poumon de la capitale au même titre que le bois de Boulogne ou le bois de Vincennes. Plus clairsemé naturellement, mais c'est un poumon de la capitale, comme les buts de Chaumont. Comme le square de Montsouris, comme tous ces grands squares à l'intérieur de Paris.
L'on doit à Louis XVI, qui n'était décidément pas totalement idiot, d'avoir eu envie d'en finir avec l'habitude des Parisiens d'enterrer les leurs dans la cour, parmi les carottes et les poireaux.
Pratiquement, oui. Mais disons que déjà, le roi Louis XVI avait pris des mesures. Les mesures définitives, c'est sous le Premier Empire. La première convention pour les obsèques, etc., date, je crois, si mes souvenirs sont bons, de 1811. Donc c'est au milieu de l'Empire. La création des trois grands cimetières parisiens, c'est une question d'hygiène. Et aussi une question d'esthétique. Parce que voir une tombe en plein milieu d'une cour ou quoi que ce soit, c'était peut-être pas terrible.
À la même époque, il était véridique, proprement une offense à Dieu de se brosser les dents, au même titre que d'ouvrir un parapluie dans une maison. Le Père Lachaise, alors hors de Paris, représenta une promenade de santé de 4 km pour y aller, de quoi ouf, à certains égards, en perdre haleine.
Et en plus de ça, il faut savoir que le cimetière du Père Lachaise, quand il a été créé, c'est le premier cimetière où on pouvait venir se promener. C'est aussi un jardin.
Le cimetière du Père Lachaise compte 70 000 habitants. Par comparaison avec les 2 millions d'habitants de Paris intramuros, cela représente une population tout à fait honorable.
Il y a de la concurrence, oui, c'est une ville dans la ville. Il y a 1,2 million, 1,3 million d'inhumations. C'est pratiquement c'est plus de la moitié de la population intramuros de Paris.
D'ailleurs, disons-le, le prix de l'immobilier du cimetière du Père Lachaise est assez proche du mètre carré parisien.
C'est pas donné, hein. C'est pas donné. Vous pouvez trouver sur notre site ou sur le site de la mairie de Paris le coût des sépultures parisiennes, que ça opère la chaise ou dans les autres cimetières. C'est pas donné. Ça rentre un peu dans l'immobilier parisien. Sensiblement 12 000 euros, disons. 2 mètres carrés, un emplacement. Enfin, c'est pas très grand, hein.
Faut pas être gros.
Dans ces cas-là, on vous fait un prix de gros.
Alors, déjà une légende à qui il faut tordre le cou, Champollion le jeune, il n'a jamais assisté à la campagne d'Égypte. Hein, il avait 2 ans. Alors même si c'était un surdoué, il y a quand même un bémol. Hein. Je vois ça comme ça, mais je peux peut-être me tromper. Mais... Alors toujours est-il, celui qui avait trouvé la fameuse pierre de Rosette, c'était vivant de nom. Et vous voyez le tombeau qui est juste en face, là, vous voyez, avec un vase sur le dessus. Amiral Sidney Smith, donc celui qui nous a mis la pâtée à aboutir, eh bien il dort ici. Vous voyez, on n'est pas rancunier quand même. Hein. On est très accueillir dans notre pays. Avec plein des fois remarqué.
Érable, frêne, thuya, marronnier, mais aussi platane, robinier, hêtre, tilleul, acacia, noyer. Si tout le beau linge des personnalités est allongé, eux se tiennent debout. Eux, ce sont les quelques 4000 arbres du Père Lachaise.
Un marronnier.
Oui, lui aussi, il a mangé la tombe. Par contre, les gens qui sont en dessous, ils sont tranquilles. Hein.
Vous verrez d'ailleurs sur beaucoup de tombes, il y a des pousses, hein, il y a énormément de pousses d'arbres.
Ça se trouve, ils ont été trimballés par des oiseaux qui ont d'abord mangé des graines. Et puis les graines, ils se sont soulagés quelque part, les graines, ils ont déposé, et puis les petites graines, elles ont poussé.
Parmi ces arbres, leur doyen, il est division 33, il est un peu château branlant, mais tient encore debout.
Il est fatigué, oui.
Oui, notre pauvre pépère, c'est un être pourpre. Alors le pauvre vieux, là, donc les branches maîtresses sont parties, hein, parce que ça menaçait quand même un peu ruine. Alors vous voyez que là, les tombeaux, il en avait vraiment rien à faire. Et puis regardez un peu les racines, jusqu'où elles vont. Alors imaginez que demain on coupe l'arbre ici, qu'on ait envie de retirer la souche, c'est pratiquement impossible parce qu'on arrache tout ce qu'il y a autour.
Ah, c'est clair.
Il a donc carrément mangé le monument.
Oh, incroyable. Hein.
Vous voyez ? Et regardez un peu l'épaisseur des racines. Alors je crois, si mes souvenirs sont bons, qu'il était planté en 1834. Si mes souvenirs sont bons.
Tous les arbres du Père Lachaise sont répertoriés. On ne les coupe pas comme cela, comme partout ailleurs. C'est la nature qui reprend toujours ses droits.
Alors c'est quand même un personnage important qui est là-dedans. C'est le frère du maréchal Berthier, qui était le chef d'état-major de Napoléon Ier. Alors celui-ci était général de division. Et à côté, c'est son épouse. Alors, vous voyez, il ne reste plus grand-chose. Là, c'est pareil. Si vous regardez bien cet arbre-là repose dans une sépulture aussi. Et il y a des endroits, c'est beaucoup plus spectaculaire. Alors ce qui fait dire à certains guides quand même ici, enfin ce qui faisait dire, parce qu'à mon avis ça va être quand même terminé, que l'hiver, quand il n'y a plus de feuilles, des fois on peut voir peut-être des ossements là-haut. Pourquoi pas?
S'il est bien imité, le lézard couleur pétard sur la tombe de Jim Morrison est en pétrole et la tête de la monumentale sculpture de Casimir Perrier n'abrite plus guère d'abeilles. Du reste, on dit qu'il s'agissait plutôt de guêpes. Mais les chats, eux, sont sous bonne garde et donc toujours bien vivants.
À Montmartre, il y a des gens qui sont là. C'est l'école du chat. C'est une association qui s'appelle l'école du chat. Et uniquement les membres de cette association qui doivent s'occuper des chats. Hein, si vous faites piquer à donner alors que vous n'avez rien à y voir, on vous raccompagne gentiment à la porte. Ici, c'est autre chose. Hein. Alors ici, le gros problème, c'est que ces dames squattent des fois quelques chapelles en mettant des boîtes à chats, des trucs, des machins. Bon, quand vous venez fleurir la tombe de vos parents, vous apercevez qu'il y a des gamelles de Kit Kat dedans, c'est pour la joie quand même, quoi. Mais ces dames, leur ancêtre à toutes, elle a 98 ans maintenant. Et attention, elle a encore à la pêche, ma mère. Il faut faire attention, quand on parle de chez chat, il faut faire attention à ce que l'on dit. On avait un gros rouquin qui était en bas, qu'on avait surnommé Garfield, ça paraît logique. Et puis Garfield, il avait voulu jouer les costauds avec les corbeaux. Puis il y a un corbeau qui avait fait un trou dans le dos. Et donc, il y a une des dames qui l'a pris, le matou, puis en gros, elle l'a gardé maintenant.
Quand il prononça l'oraison funèbre de Balzac, Victor Hugo se cassa la figure dans le trou. Vexé, il s'empressa d'écrire pour la postérité une autre version des faits. Gérard de Nerval, délicat en sa poésie, lui n'avait cure que l'on sache qu'il promenait parfois un homard en laisse aux Tuileries. Les immortels, nos chers académiciens, voient leur jour un jour finir, et les maréchaux d'Empire sont ici légion, au Père Lachaise habitent les valeurs sûres.
Édouard Branly, l'inventeur de la TSF, le grand-papa de RTL et d'Europe numéro 1. Grâce à lui qu'on peut écouter les grosses têtes. C'est peut-être pas ce qu'il a fait le mieux. C'est un peu ringard maintenant ce truc-là. Marqué, c'était déjà ringard il y a 30 ans. Ça s'en engage que moi, hein, si c'est votre émission favorite, pardonnez-moi.
Ils sont aussi nombreux, artistes, écrivains, personnages politiques, à avoir marqué leur temps et à être là, Cuvier en son élément naturel, Pleyel, Chopin, dont la tombe est l'ambassade bis de la Pologne, et plus proche de nous, Édith Piaf, pas très loin Marcel Cerdan bien sûr, Pierre Desproges, l'heure d'être parfaitement écologique.
Alors notre Pierre Desproges, il est enterré dans une tombe végétale, c'est-à-dire qu'il était crématisé, ses cendres mélangées à la terre. Alors on va se souvenir de lui, on va raconter quelques aphorismes. Hein, il a dit, il vaut mieux se taire et passer pour un con plutôt que de l'ouvrir, laisser plus aucun doute à ce sujet. Il a dit, c'est chez les footballeurs qu'il y a le moins d'hémorragie cérébrale, c'est normal, c'est là où il y a le moins de cerveau. Et il a dit aussi, c'est pas parce qu'on est assoiffé d'amour qu'il faut se précipiter sur la première gourde venue. Et on va terminer parce qu'il a dit aussi, ma femme elle a pas à se plaindre, tous les matins j'y amène le café au lit, elle a plus qu'à le moudre. Et à côté, la tombe qui est là, c'est un inconnu mais on va en parler quand même, Frédéric Chopin, j'ai jamais entendu parler de ce gars.
Si. Simone Signoret et Yves Montand sont venus en quelque sorte avec leur arbre sous le bras, les trois bouleaux, dit-on juste à côté, viendraient de leur jardin d'Auteuil.
Alors, les trois petits bouleaux que vous voyez à côté proviendraient de leur propriété d'Auteuil. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. En tout cas, comme toute légende, ça mérite d'être respecté.
Alors, le passage dans l'au-delà, désormais un geste pour l'écologie ?
C'est les gens qui sont en décomposition, ils le sont, disons, dans des réceptacles, dans des boîtes, dans des caveaux. Donc, ça apporte pas trop préjudice à la Terre. Bon, quant à la crémation, le système qu'il y a maintenant... C'est quelque chose de parfait. Il n'y a plus aucune scorie, il n'y a plus rien. On a connu une époque, mais ça remonte à très loin, où on voyait le matin les cheminées qui fumaient. Hein, selon la couleur de la fumée qui sortait, les gens disaient « Ah bah tiens, il va faire beau, il va pleuvoir ». Bon, ça c'est fini, il n'y a plus rien qui sort.
Le fait de mourir, donc, est une chose propre ?
Maintenant, oui. Le fait d'être crématisé ou incinéré, oui, c'est écologique, en gros. C'est écologique. Bon, il n'y a qu'au niveau du souvenir que les familles sont un peu réticentes.
Et le Parisien, à venir se promener ici, entre 5000 arbres, mais aussi à jouer à saute-mouton, encore que cela n'est pas trop autorisé, sur ces 62 000 tombes, ne cultiverait-il pas un penchant morbide ?
Non, il n'y a pas de morbidité là-dedans, hein, ni de nécrophilie. Hein. C'est tout simplement le fait que j'ai retrouvé ici mes leçons d'histoire. Alors c'est devenu après tout un monde. On fait souvent des visites pour des scolaires et on s'est aperçu que bien souvent aussi, les professeurs après se disent « Bah oui, tiens, c'est peut-être un personnage à creuser. »
Comme le disait Balzac, c'est la vie parisienne qui continue.
Comme disait Balzac, et quoi, c'est toujours Paris avec ses banques, avec ses commerces, avec ses hôtels particuliers, avec ses grandes familles.
Les enfants font de la patinette, le promeneur s'attarde. Seul ici, le gardien trouve à redire un peu.
« Madame, s'il vous plaît, je vais fermer, là, on s'attarde pas. Depuis ce matin que je suis là. »
La preuve que lui aussi perpétue une certaine tradition parisienne à être un peu râleur.